Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce temps de rencontre sur le thème « Rendre visite » avec aujourd'hui une visite haute en couleur avec un aspect dramatique, la rencontre du prophète Nathan et du roi David. Un récit bien connu. Je vous propose d'emblée de vous le lire pour que nous l'ayons dans l'oreille. C'est un récit splendide. Donc au second livre de Samuel, les chapitres 11 et 12. À l'année nouvelle, au temps où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses hommes et tout Israël pour détruire les Ammonites et assiéger Rabba. David, lui, resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit et alla se promener sur le toit en terrasse de la maison du roi. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit « C'est Bethsabée, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hittite ». David envoya des messagers la chercher. Elle se rendit auprès de lui et il coucha avec elle alors qu'elle se consacrait pour se purifier de son impureté. Puis elle rentra chez elle. La femme fut enceinte, elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Alors David fit dire à Joab « Envoie-moi Uri le Hittite ». Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui lui demanda « Comment allait Joab, comment allait le peuple et comment allait la guerre ?» Puis David dit à Uri « Descends donc chez toi, te laver les pieds ». Uri sortit de la maison du roi, suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à l'entrée de la maison du roi avec tous les hommes de la garde et il ne descendit pas chez lui. On vint dire à David, « Uri n'est pas descendu chez lui ». Alors David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Uri répondit à David, « Le coffre, Israël et Juda habitent dans des huttes. Mon maître Joab et les hommes campent en rase campagne. Et moi, je rentrerai chez moi pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. » Par ta propre vie, je ne ferai pas une chose pareille. David dit à Uri, reste encore ici aujourd'hui et demain je te renverrai. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain, David l'invita à manger et à boire devant lui et il l'enivra. Le soir, Uri sortit et se coucha avec les hommes de la garde, mais il ne descendit pas chez lui. Au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri à la pointe du combat le plus violent, retirez-vous derrière lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui avait observé la ville, plaça Uri à un endroit où il savait qu'il y avait des adversaires aguerris. Les hommes de la ville firent une sortie pour combattre Joab. Il en tomba parmi la troupe, parmi les hommes de David, et Uri, le Hittite, mourut aussi. Joab envoya un messager faire un rapport à David sur tout ce qui s'était passé lors du combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, si la fureur du roi éclate et qu'il te dise « Pourquoi êtes-vous allé combattre si près de la ville? Ne savez-vous pas qu'on lance des projectiles du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, fils de Yerub-Béchet? N'est-ce pas une femme qui a lancé sur lui, du haut de la muraille, une meule de moulin? N'est-ce pas ainsi qu'il est mort à Tébets? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors, tu diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. » Le messager partit. À son arrivée, il fit un rapport à David sur tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Le messager dit à David, « Ces hommes ont eu l'avantage sur nous. Ils ont fait une sortie contre nous à l'extérieur et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte de la ville. On a lancé des projectiles sur tes hommes du haut de la muraille et certains de tes hommes sont morts. Ton serviteur Uri le Hittite est mort aussi. David dit au messager, tu parleras ainsi à Joab, que cela ne te déplaise pas. L'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque courageusement la ville et rase-la. Et toi, encourage-le. » La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle se mit à se lamenter sur son époux. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Ce que David avait fait déplut au Seigneur. Le Seigneur envoya Nathan à David. Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait du petit bétail et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, couchait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Comme celui-ci voulait épargner son petit bétail et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur qui était arrivé chez lui, il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme qui était arrivé chez lui. David se mit dans une grande colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Par la vie du Seigneur, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Quant à la brebis, il la compensera au quadruple puisqu'il a fait une chose pareille qu'il n'a pas voulu l'épargner. » Alors Nathan dit à David, « Cet homme-là, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai conféré l'onction pour que tu sois roi sur Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur, j'ai placé sur ton sein les femmes de ton Seigneur, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela ne suffisait pas, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaisait ? Tu as abattu par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur, je suscite un malheur contre toi du sein de ta maison, je prendrai tes propres femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes proches, et il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil. Toi, tu as agi en secret, mais moi je ferai cela à la face de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Nathan répondit à David, « Le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas, mais parce que tu as bafoué le Seigneur en cette affaire, le fils qui t'est né mourra. » Puis Nathan s'en alla chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Il tomba malade. David rechercha Dieu pour le garçon et il se mit à jeûner. Rentré chez lui, il passait la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève de terre, mais il ne voulut pas et il refusa de manger quoi que ce soit avec eux. Le septième jour, l'enfant mourut. Les gens de la cour de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort. Ils disaient, « Lorsque l'enfant était encore en vie, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment pourrions-nous lui dire « L'enfant est mort » ? Il va très mal réagir. » David s'aperçut que ces gens chuchotaient entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda, « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se releva de terre, il se lava, se parfuma, changea de vêtements, puis il se rendit à la maison du Seigneur et se prosterna. Il rentra ensuite chez lui et demanda qu'on lui serve un repas. Il mangea. Les gens de sa cour lui dirent, « Que fais-tu là ? Quand l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais pour lui, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. » Il répondit, « Lorsque l'enfant était encore en vie, je jeûnais et je pleurais, car je disais, « Qui sait si le Seigneur ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas ? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je ? Puis-je le faire revenir ? C'est moi qui irai le rejoindre. Lui, il ne me reviendra pas. » David consola Bethsabée, sa femme. Il alla avec elle. Il coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'il appela du nom de Salomon et qui fut aimé du Seigneur. Par l'intermédiaire de Nathan, le prophète, il l'appela du nom de Yedidia, bien-aimé du Seigneur à cause du Seigneur. Voilà, voilà ce grand récit, hein, très, très bien mené, avec un art de la narration et des rebondissements, hein, qui nous montrent que l'auteur des livres de Samuel est un grand écrivain.
Il y a un autre récit dans un autre livre, je crois. Enfin, un deuxième récit, vous savez dire ?
Je ne pense pas. Non. Je pense pas qu'il y ait dans le... Non, je pense pas que... Donc, tiré des deux livres de Samuel, bon, simple remarque pour vous dire que Ces deux livres de Samuel nous relatent finalement comment la royauté a été instaurée en Israël et en Juda. Petite notation de critique littéraire, de critique historique. Hein, les exégètes s'interrogent beaucoup sur l'historicité de ces récits. Hein, est-ce qu'ils nous racontent vraiment comment ça s'est passé dans la réalité? On a quelques archéologues israéliens qui ont bouleversé bien de nos certitudes, les rois sacrés de la Bible. Hein, on sait qu'il faut attendre la disparition du royaume du Nord à la fin du 8e siècle pour assister à l'émergence d'un véritable État centralisé en Juda. Et que ce qui nous est raconté finalement est peut-être plutôt de l'ordre de la légende, hein, il faut peut-être se le dire. En tout cas, ce sont des récits qui ont pour but de mettre en valeur David. Hein, des récits qui ont une dimension, on pourrait dire, épique, pour célébrer et valoriser le mythe de David, l'ancêtre fondateur de la monarchie.
Mais l'histoire de la légende, ça ne viendrait pas contredire ce qui est dit dans Timothée, que toute parole est inspirée de Dieu, pour enseigner, corriger et, instruire dans la droiture de la justice.
Alors, je pense que là, c'est un autre débat. Hein. C'est un débat, théorique sur comment on interprète l'écriture. Voilà. Je pense que ce que je vous propose dans ce moment, c'est de recevoir le texte comme devant être lu, comme légende, et on va voir comment il va fonctionner, et on ne va pas entrer dans un questionnement de type historique et critique, mais je tenais quand même à dire en introduction voilà, qu'on peut s'interroger sur l'historicité. C'est un livre qui est là aussi pour... qui recueille des échos différents sur la monarchie. Il célèbre David. En même temps, il porte un regard critique sur la monarchie. D'ailleurs, la preuve, c'est que ici, le roi n'est pas vraiment présenté à son avantage. Hein. Et on trouve toujours dans les livres de Samuel l'écho de deux traditions. Pour certains, le roi est le lieutenant de Dieu il le représente sur la terre. Et pour d'autres, la royauté n'est légitime que si le roi lui-même est fidèle à la loi de Dieu. Et ici, la question peut se poser la question de savoir. Finalement, quel regard est posé sur le roi David à travers ce récit qui, bien sûr, n'a rien d'édifiant.
Mais j'ai vu en regardant le livre d'avant qu'il avait déjà écrit, et que finalement, l'union principale qu'il avait donnée, c'était avec la fille de Saoul, enfin, une autre, et que finalement. Et que finalement, il avait donc déjà des fils dont certains se révolteront comme Absalom,
ouais, en fait.
au moment de sa succession. Et donc, effectivement, d'ailleurs, Salomon lui-même n'a pas régné, n'a pas eu un avènement paisible. Il a fallu qu'il équipe Joab.
Oui, c'est une histoire tumultueuse. Hein. On peut dire en effet que les livres de Samuel nous racontent une histoire particulièrement tumultueuse, de bruit et de fureur, avec tout ce qui est classique dans la vie des cours et des palais, des révolutions, des intrigues, des bâtards, des femmes, des hommes, voilà, qui sont traversés par leur passion. Donc ces deux chapitres, ils sont sans doute parmi les plus célèbres de toute la Bible. Ils mettent en scène donc David, le roi. Une première lecture, elle est évidemment très claire. Le texte, il est très compréhensible, d'une grande limpidité. On voit bien que cette histoire, elle nous parle et elle nous touche. Alors que que la Bible nous présente David comme un roi selon le cœur de Dieu. Non seulement ici, il va s'approprier la femme d'un autre, mais encore il va faire assassiner Uri pour couvrir sa propre faute. Voilà. L'élu de Dieu est un adultère et un assassin. Voilà le paradoxe devant lequel nous sommes placés. Le récit est très bien construit. On pourrait le partager en quatre actes, finalement, très, très bien marqués. La faute de David, dans un premier temps. La mort d'Uri, dans un second temps. Troisième temps, l'intervention du prophète Nathan. Et enfin, dernier acte, dénouement, la repentance de David. Alors, je vous ferai quelques remarques, puis ensuite on aura un échange sur ce texte. D'abord, la première étape, la faute de David. Tout d'abord, on nous fait l'exposé très clair, sans ambiguïté, de la relation de David avec Bethsabée. David qui fait venir cette femme chez lui. Je remarque d'ailleurs, ce n'est pas sans être surprenant, que le point de vue de Bethsabée est totalement absent du récit. S'agit-il d'un viol ou d'un acte consenti par les deux ? On ne le sait pas, rien ne nous en est dit. En tout cas, il s'agit bien d'un adultère, puisque Bethsabée est déjà mariée.
Si je peux me permettre de faire une remarque, oui. C'est pas parce qu'elle s'est consacrée pour se purifier de son impureté. Donc elle faisait quelque chose de religieux.
Oui,
elle a bravé un interdit religieux.
Bah, c'est surtout pour nous dire que elle redevient féconde. C'est une manière de nous dire voilà qu'elle elle était dans elle a en effet hein, comme ça c'est là on trouve ça dans le Lévitique hein, une femme qui a ses règles doit se purifier pour pouvoir réintégrer la communauté hein, c'est une des règles classiques de la loi lévitique donc et ça nous dit très clairement oui, qu'elle redevient féconde donc qu'elle prend un risque.
Donc là, ça. Hier, on ouvre un magnifique tableau de Rembrandt sur Bethsabée, oui. Recevant la convocation de David, et elle a l'air tout à fait accablée.
En fait, il y a une richesse de représentation iconographique, hein, parce que c'est vrai que c'est une histoire qui ouvre la porte à tous les fantasmes, bien évidemment. Hein, qu'en est-il de la psychologie des personnages, on peut broder en effet à l'infini. Ensuite, on a du verset 6 au verset 13 un développement qui nous laisse entrevoir les manœuvres de David pour que Uri puisse croire être le père de l'enfant qui va naître. Ce que je remarque, c'est que le texte est d'une très grande sobriété qui ne porte aucun jugement hein, sur le roi David. Alors que tout le récit, cette longue résistance d'Uri aux pressions amicales de David, finalement ne fait que mettre en valeur la culpabilité de celui-ci. Et le récit montre bien le contraste entre finalement les manigances de David et la solidité morale d'Uri, hein, cet homme qui revient de la guerre et qui refuse d'aller dormir chez lui, qui se refuse à prendre du bon temps alors que ses compagnons sont en train de se battre contre les Ammonites. Oui.
Est-ce que c'est pas le refus justement d'aller chez lui qui va le condamner à mort ? C'est-à-dire que s'il était allé chez lui, David aurait pu se dispenser de
oui,
le tuer.
En effet.
Donc est-ce qu'on ne peut pas en conclure que la résistance à l'ordre royal mérite la mort ?
C'est-à-dire que c'est pas la faute de David qui est la cause de la mort. C'est une hypothèse.
Oui.
Est-ce que c'est la non-obéissance au roi qui va entraîner la mort?
Ouais. Question posée, qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout.
C'est très facile de reporter la faute sur la victime, on entend ça tous les jours.
Donc,
c'est pour ça que votre question, je rappelle ça. On essaie toujours de montrer que la victime, c'est de sa faute. Elle n'aurait pas dû être là où elle était.
Ça expliquerait, de mon point de vue, le fait que David ne se sente pas. C'est étonnant, si vous voulez, cette insistance.
Oui.
C'est la différence entre la loi laïque et sur le plan profane ou laïque. Effectivement, il vaut mieux ne pas rentrer à la maison, laisser le roi faire ce qu'il veut faire. Et si on a mieux que le roi lui-même est soumis à une loi plus puissante, à ce moment-là, on a la suite du récit.
Ce que je trouve intéressant dans votre réflexion, c'est que David va être entraîné dans un processus où il va prendre conscience, en effet, de sa culpabilité, de sa responsabilité. Là, en effet, c'est un homme qui pour l'instant, suit son instinct, voilà, qui ne se pose pas de questions. Il veut que son plaisir s'accomplisse, et c'est la seule loi qui domine sa vie.
Mais quand même, il se sentir moins coupable parce qu'il essaie de protéger Bethsabée contre la mort.
Et
à la fin, on dit bien qu'il va la consoler de la mort de son premier-né. Donc,
oui.
C'est pour ça que l'iconographie nous montre une Bethsabée qui est aimée. On ne dit pas qu'elle était morte, mais qu'elle est aimée.
Mais ça, c'est juste une représentation.
Oui, alors c'est vrai que c'est ce qu'on peut faire remarquer. On sort de ce qui est dit pour, en effet, des hypothèses psychologiques qui sont tout à fait passionnantes, mais sur lesquelles nous n'avons pas vraiment de prise.
Peut-être qu'Urie se méfiait aussi.
En quoi?
Peut-être qu'il avait vu qu'il y avait un loup.
Peut-être.
Tout simplement, comme on le dit, Urie, c'est quelqu'un qui est très intègre, qui est fidèle, qui est un bon soldat. Et qui ne va pas se permettre en fait, de regarder sa chair, son animal, on va dire, et qui va, comment dirais-je, suivre. En fait, il a une tâche à faire, il va remplir sa mission jusqu'au bout.
Il l'a dit plusieurs fois qu'il veut rester.
C'est pour ça qu'après, même dans les passages, on voit bien où Uri est toujours mentionné, on dit bien son nom pour rappeler justement son intégrité, que c'est lui la victime, en fait, il a été le sujet.
C'est lui qui meurt, en effet.
Ouais,
c'est lui qui meurt.
Et pourquoi dit-on qu'il est hittite? Est-ce qu'on met l'accent là-dessus? C'est-à-dire étranger, les hittites n'ont pas une très bonne réputation dans l'Antiquité. Et Uri, il est pas hittite.
Oui.
C'est ça ma...
Alors, est-ce qu'on peut faire une... Est-ce qu'il y a une connotation? Franchement, je ne me suis pas posé la question.
Il n'a peut-être pas les mêmes droits qu'un juif. Est-ce qu'il a, comme les autres, le droit de tuer sa femme?
Non.
Ah, c'est la question de tout.
Non.
Mercenaire, en tout cas. Mercenaire. Je dirais. Mais à creuser.
Par contre, il n'est pas lui, enfin, bon, ça, c'est vraiment au début des modernes qui pourrait les adorer. Un enfant qui n'est pas lui, puisqu'il était le parent.
Pour reprendre ce que vous dites, il est hittite. Moi, j'essaie de voir ce que le texte essaie de nous dire, de la volonté de Dieu, etc. Ça va interpréter suivant notre psychologie. Le fait, au contraire, j'entends l'inverse. Le fait qu'on précise qu'il est hittite, ça veut dire que la loi du respect, de ne pas convoiter la femme d'autrui, etc., ça s'adresse à tous, y compris aux hittites. Au contraire, ça me donne une version universelle, si vous voulez, en précisant que le hittite est dans cette même problématique du détournement. Donc moi, je le permets à l'index.
Oui. D'accord. C'est intéressant. Alors, la mort d'Uri, c'est là, en quelque sorte, le deuxième acte. On nous décrit au verset 14 et à 17 le meurtre, ses préparatifs. Et puis ensuite, on a un long développement du verset 18 au verset 27 sur les conséquences de la mort du riz. Voilà. Là encore, on a un énoncé des faits avec une insistance sur le dialogue entre Joab et entre le messager qu'il envoie à David. Le lecteur, finalement, il est forcé de comprendre qu'Urie ne serait pas mort s'il n'y avait pas eu ce complot contre lui. Et indirectement, sans que cela soit dit, la culpabilité de David en sort renforcée. On voit que on comprend comment le stratagème a été mis en place. Et le chapitre s'achève voilà de manière très très brève ce que David avait fait déplu au Seigneur, qui laisse entendre une suite particulièrement menaçante. Donc là, il y a une sorte de manière de relancer le suspense et d'attendre la suite. Voilà.
Oui. Je vous permets une question. Comment est-ce que vous comprenez si la fureur du roi éclate ? C'est-à-dire que le serviteur qui vient raconter la chose a peur que le roi se mette en boule contre son propre ordre. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça vient faire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on fait de ça ?
Il a demandé que l'on mette le type dans une position difficile, mais il n'a pas demandé qu'on le mette dans une position telle que des hommes chers au roi, et en particulier ce Abimélec, etc., soient tués. C'est-à-dire qu'on reproche en somme au mandataire d'avoir choisi un point pour faire tuer Urie, mais qui en même temps fait tuer un certain nombre d'hommes du roi. Donc le roi est furieux qu'on fasse tuer ses hommes.
D'accord, donc effectivement, il suppose que le roi peut se fâcher d'avoir tout bien obéi ou malgré
la mandataire. Enfin, c'était assez embarrassé de la part de Joab pour envoyer le message au roi, finalement.
On change de chapitre et on arrive au cœur du récit avec l'intervention du prophète Nathan. Voilà, le prophète rend visite au roi. Hein, bon. Ce cycle vous présente différents types de visites. Ici, c'est une visite vraiment de type particulier où il y a quelque chose de l'ordre de la dénonciation, hein, ou du rappel à la loi. Le chapitre est d'abord construit autour de la parabole de la brebis, hein, qui est vraiment un des classiques de la Bible. Une parabole extrêmement parlante, extrêmement pittoresque. La force de la parabole, elle tient à ce qu'elle prend appui sur le sens de l'injustice dans le cœur de David. À l'entendre, David se met en colère, d'une colère juste, d'un homme qui est sensible à l'injustice faite à un pauvre. Et cela nous apprend que la reconnaissance du mal commis, elle prend appui sur ce minimum de conscience de l'injustice. Et on voit peut-être, en effet, comment dans le cœur du roi David est en train de s'éveiller progressivement à la notion de responsabilité. Il y a cet enseignement du prophète Nathan, qui n'est pas une mise en accusation, mais qui déplace légèrement le propos pour placer le roi David devant un cas d'école. Et puis ensuite, il y a du verset 5 au verset 13, le dialogue entre les deux hommes qui aboutit à la reconnaissance par David de sa faute au verset 13, hein, David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Au plan littéraire, c'est très bien construit. Hein, comment, comment ne pas être touché par cette histoire d'une brebis qui met en relief la culpabilité du personnage. David l'est, le lecteur, lui non plus, ne peut pas l'être. Et l'intervention directe de Nathan illustre parfaitement le rôle du prophète dans la Bible, se faire le porte-parole de Dieu devant les hommes en rappelant les exigences de la loi. Et enfin, l'aveu de David, dans sa brièveté, dans sa netteté, met en relief finalement sa droiture dans cette circonstance.
Moi, je trouve intéressant, quand tu disais d'ailleurs, c'est qu'il a péché contre le Seigneur et pas contre Uri. Mmh. Bon, on n'est vraiment pas dans notre 21e siècle, hein, oui. Dans une autre ambiance. Il a péché contre le Seigneur parce qu'il a été injuste, parce que Dieu veut la justice, et il a péché contre la justice. En fait, on est Uri et a déjà disparu du paysage. Hein.
Alors, ça sera l'occasion, alors je vais y venir. Peut-être de réfléchir sur la distinction entre la faute et le péché. Car je pense qu'il y a le récit joue assez subtilement sur deux niveaux, qu'on va essayer un peu de dépatouiller, parce que qu'est-ce que veut dire finalement David quand il dit « j'ai péché contre le Seigneur » Et surtout, que veut dire Nathan lorsqu'il lui répond, et ça c'est assez énigmatique, « Le Seigneur laisse passer ton péché, tu ne mourras pas, mais parce que tu as bafoué le Seigneur en cette affaire, le fils qui t'est né mourra. » Parce que tu as bafoué le Seigneur. Qu'est-ce qui nous est dit d'autre ou de plus dans cette expression? Pourquoi il y a cette redondance entre « tu as péché et tu as bafoué le Seigneur » Est-ce que c'est simplement un effet rhétorique ou est-ce qu'il y a un effet de signification? Je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. Et enfin...
Il y a deux péchés, dont un beaucoup plus grand que l'autre. Il y a le péché d'adultère et puis il y a le meurtre.
Est-ce que c'est simplement la distinction entre ces deux actes? J'en suis
peut-être
pas tout à fait.
Une troisième distinction, oui. tu as agi en secret.
Également, oui, le secret.
C'est injuste, mais il est riche de faire la loi.
Non, mais David, il se repent quand il dit « j'ai péché contre le Seigneur ».
Oui, il se repent, oui, oui.
Et donc, Nathan tient compte de cette repentance en disant qu'il ne mourra pas.
Oui, tu as dépossédé le pauvre à la fois qui était riche.
Oui.
Il y a bien une notion de justice.
Bien sûr.
C'est contre la volonté de Dieu. Tu prendras en charge le pauvre et l'orphelin, etc.
Bien sûr. Les deux sont liés. Hein. Je ne sépare pas absolument la culpabilité, la faute et le péché. Ce sont deux réalités très liées, mais qu'il faut distinguer pour les unir. Quatrième, mais on va y revenir. Quatrième passage, à partir du verset 15 jusqu'à la fin du récit, ce qu'on pourrait appeler la repentance de David, comme vous venez de l'indiquer, hein, qui est d'ailleurs qui se déroule par étapes. Tout d'abord, il y a la supplication de David, où il implore Dieu pour la vie de l'enfant, multipliant les marques de pénitence. Ensuite, après la mort de l'enfant, à partir du verset 20, il y a un retour à la vie et un dialogue avec les serviteurs, hein, et qui je pense est éclairant. Dans cette partie, bien sûr, il y a une question qui nous est posée, voilà. Comment se peut-il qu'un enfant innocent puisse payer pour la culpabilité du père? Comment concevoir une injustice de ce type? En même temps, au-delà de ce qui est objectivement inacceptable, je pense que cet épisode nous dit quelque chose d'essentiel sur la foi de David et sur la foi d'Israël. Alors, l'hypothèse que j'avance, et je vous la propose, on pourra la discuter, c'est que ce récit a des allures de récit de faute originelle. Un peu comme Genèse 2 et Genèse 3. Voilà. Le péché originel de David. Un récit qui fonctionne comme ce qu'on appelle habituellement un récit étiologique, c'est-à-dire qui tente de nous donner les raisons d'une situation dans laquelle on vit. Voilà. Comment expliquer le mal dans le monde? Comment expliquer le mal dans une société? Comment expliquer le mal dans une dynastie? Comment expliquer le mal dans une famille? Voilà. Et je pense que ce récit, en quelque sorte, c'est la tentative d'explication, hein, d'une situation où règne quoi, la violence, en particulier la violence guerrière, et le dérèglement sexuel, pornéia pour parler comme Saint Paul. Hein. Et c'est un texte qui est travaillé par une très grande violence guerrière, hein, c'est une histoire de soldats, on fait la guerre. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir qu'il est indiqué, et c'est Dieu lui-même qui le dit, que l'épée ne se détournera plus de la maison de David. Voilà. Donc, voilà, c'est l'histoire d'une dynastie, d'un royaume qui est confronté à des situations de guerre sans cesse. Et je pense que l'auteur ou les auteurs s'interrogent sur... D'où vient cette situation? D'où vient que nous soyons sans cesse en guerre? Alors il faut un récit un peu mythique, hein, pour en rendre compte. La violence, d'ailleurs, elle règne à l'intérieur de la dynastie. Hein, on nous dit dans les livres de Samuel que trois des fils de David sont morts de mort particulièrement sanglante: Absalom, Adonias, Amnon. Hein. Et premier, donc la violence guerrière, la violence de la guerre, et puis le dérèglement sexuel, hein, puisque David, qui a pris la femme d'un autre, s'entend dire par Dieu que parmi sa descendance, quelqu'un viendra prendre ses propres femmes pour les donner à d'autres. Parole qui, d'ailleurs, on voit qu'elle se réalise au deuxième livre de Samuel, au chapitre 16, lorsque nous voyons Absalom, précisément l'un des fils de David, capturer le harem de son père et avoir des relations sexuelles avec les femmes de son père, au vu et au su de tout le monde. Donc, voilà. Et donc là aussi, je pense que le récit, il cherche une cause à cette situation, où dans le cadre d'une famille royale, toutes les dépravations et tous les dérèglements se laissent en cours. Donc la violence de l'épée frappera la maison de David et ses femmes seront prises sous ses yeux. Voilà. Et finalement, qu'est-ce qui est en cause? La raison ultime de tout ce... de ce désordre, voilà, pour dire les choses avec un peu de retenue, c'est la convoitise. C'est la convoitise de David. Comme si nous étions là devant le péché originel de David, qui s'est laissé aller à convoiter, qui est prisonnier de l'envie. Finalement, est le même moteur de l'action dans le récit de Genèse, hein, où finalement c'est l'envie, le désir de posséder, de franchir une limite qui met en branle Adam et Ève. Alors, là où il peut y avoir une interrogation, c'est sur la sanction. La sanction apportée par Dieu. Est-ce que la peine de mort, qui n'est pas infligée à David d'ailleurs, puisque David échappe à la mort. C'était pour être déjà une première, aussi une interrogation. Pourquoi ce Dieu, pourquoi ne punit-il pas David en le faisant mourir? Pourquoi finalement cette peine de mort qui n'est pas infligée à David serait-elle reportée sur l'enfant, hein, puisque au verset 14, il est écrit: puisque dans cette affaire tu as gravement outragé le Seigneur, le fils qui t'est né mourra. Alors, est-ce que le décès de l'enfant peut être compris, interprété comme la punition du père? Je crois que là, il faut se poser la question. Or, en fait, je reviens à ce que je disais précédemment, le décès de l'enfant, il faut le mettre en rapport avec l'accusation lancée à David d'avoir, en cet enfant, gravement outragé Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir gravement outragé Dieu dans cette affaire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que David, il sait pourquoi l'enfant va mourir. Il a, lui, David, méprisé la parole du Seigneur. Ça nous est dit au verset 9 du chapitre 12. C'est dans « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui lui déplaisait ?» Alors, je pense que David a méprisé la parole du Seigneur, non pas seulement parce qu'il a violé la loi en commettant l'adultère et en tramant un meurtre. Il a méprisé le Seigneur parce qu'il a bafoué la parole de la promesse que Dieu lui a faite de lui donner un fils qui lui succédera sur le trône d'Israël. C'est dans « Le Seigneur t'annonce que le Seigneur te fera une maison, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi, j'établirai fermement sa royauté. » C'est ce que nous lisons au deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, au verset 11 et 12. Oui, David s'était entendu promettre par Dieu qu'il aurait un fils. Et en engendrant ici un fils dans l'adultère, eh bien, David a méprisé cette promesse du Seigneur. Il n'a pas cru à la promesse de Dieu concernant le fils à naître. Et si on peut parler de la sorte, je dirais que le fils né de l'adultère, c'est en quelque sorte une impasse, qui bafoue la promesse de Dieu. Et c'est pourquoi David, finalement, sait que cet enfant, là, va mourir. Et peut-être aussi pourquoi il tente d'intercéder en faveur de cet innocent. Voilà, ce que je veux dire, finalement, c'est que le péché originel de David, plus que d'avoir été adultère et d'avoir tramé un complot contre Uri, c'est de ne pas avoir fait confiance au Dieu de la promesse, c'est d'avoir succombé à la convoitise.
Non, mais je veux dire, un conseil, il n'avait pas d'autre fils, il aurait pu quand même, si je vais dans votre sens, il aurait quand même pu faire la parole de Dieu s'accomplisse.
Là, j'avoue, alors, je n'ai pas relu la totalité du livre. Il faudrait voir dans le livre de Samuel qu'est-ce qui se passe avant le récit. Est-ce que il y a déjà eu des enfants?
Ouais. Ah oui. Quand il a pris Hébron, il y avait plein de fils et des filles.
Je me demandais pourquoi Nathan n'était pas venu avant qu'il fasse tuer Uri. Alors, Nathan n'est pas venu après l'adultère, il n'est pas venu après le meurtre d'Uri, il est venu après le moment où David installe ce fils chez lui comme son fils. Et le texte ne dit pas, peut-être qu'il l'installe déjà comme fils préféré.
Oui. Oui.
Et c'est à ce moment-là que Nathan vient. Moi, je m'étonnais qu'il soit bien si tard, mais là, vous m'avez expliqué.
Vous avez tout à fait raison, en effet. Oui. Il l'installe dans sa maison, donc il est, voilà. Il est dans la ligne dynastique. Il est...
Et c'est là que Nathan arrive. Mmh.
Tout à fait. Alors, je pense, vous voyez, que je reviens maintenant sur cette distinction entre culpabilité, entre la faute et le péché. Je pense que le livre met vraiment en valeur la culpabilité de David. Il a commis une faute, hein, et le récit ne cherche pas à le nier. Et David prend peu à peu conscience de sa responsabilité et de la faute qu'il a commise. Et je pense qu'on peut faire une lecture éthique de ce texte, une lecture morale, hein, qui nous enseigne qu'il est normal que l'on paye pour sa faute et que nos actes ont des conséquences qu'il faut assumer. Et d'ailleurs, on voit David assumer ici, hein, il se comporte d'une manière adulte. Mais je pense ensuite qu'il faut distinguer la faute, qui est une notion éthique, du péché, qui est une notion théologique. David est coupable, mais David est pécheur. David est pécheur parce qu'il a méprisé la parole de Dieu en refusant d'accorder sa confiance au Dieu de la promesse. Et je crois qu'il faut vraiment bien spécifier les deux, qui ont bien sûr un lien, hein, parce que c'est la rupture de la confiance de David à l'égard de Dieu le conduit aussi à ne plus obéir à la loi et à se comporter de manière fautive. Ensuite, je remarque aussi que le texte, il évoque la surabondance du don de Dieu. Et que le pardon accordé à David doit être situé dans cette lignée. Il est affirmé que Dieu lui a pardonné. Et je pense que c'est aussi, je relisais le texte, et c'est une chose qui m'a vraiment étonné, c'est l'immédiateté de ce pardon accordé à David, voilà, qui est quand même tout à fait étonnant. C'est-à-dire que finalement, le péché n'est pas le dernier mot de ce récit, et il ne l'est pas non plus de la vie de David. Il y a une place pour le pardon. Voilà. En dépit de tout ce que nous dit le texte de l'horreur des actes de David.
Je vous pose juste une question, c'est dans le chapitre « Maintenant, l'Église ne s'écartera jamais de ta maison ». Alors, est-ce que là, il y a une sanction qui semble durer dans le temps,
alors
comment l'accorder avec le pardon?
Oui, il y aura des
guerres. Je pense que quand on introduit un désordre dans une situation, les choses se déroulent.
C'est un constat, c'est pas une menace.
Oui. Un mauvais arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, tout simplement. Le comportement déréglé de David, il va engendrer des conséquences.
Donc ça veut dire que le péché ne part pas tout, en fait. Le péché ne part pas tout. Le pardon ne répare pas le péché.
Je pense que le pardon ne répare pas tout, en effet, au sens tout à fait. Oui. Et que celui qui a commis une faute et qui en plus a la conscience d'avoir péché contre Dieu, il est bien, en rigueur de terme, tenu de réparer. Il y a une responsabilité que, dans la mesure du possible, on est dans l'obligation morale de réparer autant qu'on puisse le faire le mal qu'on a fait. Oui.
Mais on peut dire en même temps que même si la poursuite, l'épée va continuer à tuer, etc., c'est que malgré le désordre, le plan de vie de Dieu se poursuit. Il y a un rebondissement, il y a une autre naissance et l'histoire pour la vie continue. C'est-à-dire que Dieu, même dans des situations très chaotiques qui sont dues par notre faute, récupère, je veux dire ça entre guillemets, récupère la situation et fait que l'histoire continue.
Oui.
Ça, c'est très dommage parce que la fin est,
il y a...
est très optimisante en quelque sorte.
Ah, quand on dit qu'un roi avait marché sur les. Les traces de David, on dit toujours David avec des jus, sauf dans cette affaire-là.
Oui,
non, non, c'est écrit dans la Bible à la fin du livre sacré ou quoi.
Mais là, le pardon est signifié par Nathan au nom de Dieu, et le pardon est signifié au moment où l'enfant suivant, Salomon, recevra son nom de bien-aimé. Donc le pardon, il est signifié par l'envoyé de Dieu. Moi, ça m'a. Hier, il y avait une émission de nouveau là, sur Jean Kélévitch et le pardon, et qui posait la question, qui peut pardonner? Surtout quand la victime est morte. Uri ne peut pas pardonner, il est mort. Pour Jean Kélévitch, vous connaissez. Et là, il n'y a que Dieu qui peut pardonner, disent certains.
Mais pensons au point de vue de Bethsabée, dont on ne sait rien. Parce que le premier enfant qu'elle a eu avec David, il est le symbole même de ce péché. Et c'est cet enfant péché qui disparaît.
Oui.
Parce que c'est ensuite un enfant qui est bien aimé de Dieu. Donc c'est vraiment, il a fallu d'abord que cet enfant disparaisse.
Oui. Là, on a l'impression que les autres personnages, comme dans une pièce de théâtre, ce sont des personnages secondaires et je dirais des victimes collatérales. Et souvent, le symbole est porté par les personnages principaux. Les personnages collatéraux.
C'est pour montrer aussi peut-être que le plan de Dieu est toujours compris avec ce qui est en dit.
Oui, en tout cas, ce qui est certain. C'est que le texte, il est traversé par ce projet de Dieu, que je rattache à cette surabondance du don de Dieu, que ce don, il est orienté, et que à travers le drame de ce récit, on essaie quand même de nous dire que Dieu est le maître de l'impossible. Reste ensuite, en effet, et ça je pense que c'est une pierre d'achoppement dans ce récit, c'est la mort, la mort de cet enfant, voilà, qui reste un scandale.
On en a d'autres, hein,
ça, c'est
les premiers
des
innocents, et puis le « tu ne mourras pas celui qui a fauté », c'est Caïn aussi. Hein. Mm-hmm. Oui, d'abord, ça applique de façon significative, pas tout à fait.
Oui.
De façon significative sur d'autres personnes que l'auteur des dégâts. Adam, il ne meurt pas non plus. Caïn, il ne meurt pas, ne serait-ce que pour qu'il évolue justement dans son propre chemin de la relation avec Dieu. Sans quoi, s'il mourait...
Mais cette mort violente, cette mort, elle reste quelque part de l'ordre du scandale. Hein. Et je pense que là, on touche à quelque chose qui me semble important dans la Bible, c'est que elle intègre cette dimension du tragique de l'existence. En dépit de la mort de cet enfant, le projet de Dieu avance, mais il faut on doit entendre qu'il peut susciter la colère, l'indignation.
Est-ce qu'elle n'était pas nécessaire, cette mort?
Alors là, chacun se déterminera selon ses convictions théologiques. Voilà. Alors là.
Est-ce qu'il n'était pas nécessaire pour donner aussi naissance après à sa mort?
D'un autre côté, dans l'Antiquité, enfin, même jusqu'à début du XXe siècle, la mortalité enfantine est quelque chose de terrible.
Il rappelle que quand même, il y a eu plusieurs femmes. Ou illégitime dans l'ascendance du Christ.
Oui, ça, en fait. Mais vous mettez le doigt sur une question qui, à mon avis, est insoluble, hein, qui est sur la, est-ce qu'il y a une positivité du mal? Bon, selon vos convictions philosophiques, vous répondez oui, vous répondez non.
Du mal peut sortir un bien, mais bon.
Voilà, je me garderai bien.
C'est pas toujours
c'est
le cas.
C'est la confession de foi de La Rochelle.
Ah, voilà. Je ne suis pas hegélien, je ne pense pas qu'il y ait une positivité du négatif.
C'est aussi
que
la féminisme dans la confession de foi de La Rochelle. Que Dieu est capable de transformer tout mal.
Oui, mais je ne suis pas sûr que j'adhérerais à la confession de foi de La Rochelle si on me demandait, si la commission des ministères m'avait demandé de commenter et d'adhérer à la confession de foi de La Rochelle, je pense que j'aurais dit non, je ne me sens pas concerné par ce Dieu-là. Voilà, je ne suis pas...
Jusqu'à la fin, quand même, David a espéré que Dieu ferait grâce. C'est ça.
Oui. C'est très intéressant de voir qu'il y a cette conviction, cette conscience que Dieu peut toujours faire grâce.
Voilà.
Là, quelque chose nous est dit, en effet, de la foi de David. Parce que cet homme, qui est un coupable, un criminel, qui est un pécheur devant Dieu, qui se reconnaît pécheur, est aussi un homme de foi. Simul justus, simul peccator, c'est quelque chose de très dans l'esprit de la réforme de Luther. Nous voyons un homme qui confesse son péché, qui confesse sa foi, pour parler comme Augustin dans les confessions. Et s'il a conscience que Dieu peut toujours faire grâce, c'est parce qu'il a aussi la conscience que finalement on est précédé dans l'existence par le pardon, qui est en quelque sorte le don originel. Et c'est la raison pour laquelle il s'humilie et il implore la miséricorde de Dieu pour que l'enfant vive. Voilà, faisant. D'ailleurs, il dit, il exprime son désir d'être seul, touché par les conséquences de ses actes. Et en même temps, après la mort de l'enfant, après la mort de son fils, il ne prend pas le deuil.
La vie reprend le dessus.
Il a fait ce qu'il a pu, et maintenant qu'il ne peut plus rien, autant vivre. Le Dieu qui donne, le Dieu qui pardonne, c'est le Dieu des vivants, ce n'est pas le Dieu des morts. Et d'ailleurs, pour consoler Bethsabée, il va coucher de nouveau avec elle.
C'est...
Oui.
Chut, écoute. Comment David, ces personnages-là importants, avant tout quand même un être humain.
Ah ben, bien sûr. C'est un être de chair et de sang. Il est comme nous, j'allais dire. Voilà. Ce qui arrive à David, ça peut arriver dans la vie. Banale, la vie quotidienne, il ne faut pas se faire d'illusions. Alors le fait qu'il rejoigne Bethsabée, qui va devenir enceinte, mettre au monde celui qui va devenir Salomon, c'est la mise en scène d'un nouveau départ, d'une nouvelle création.
Il est frappant que le premier enfant n'a pas de nom, oui. Alors que c'est Nathan qui donne le nom du second.
Oui, oui. C'est l'enfant. Je conclue, parce qu'il est presque 13h30. C'est toi cet homme. C'est une extrêmement bien trouvée. C'est une parole qui atteint David et qui résonne en nous aussi, parce qu'elle nous rejoint dans l'expérience, une expérience commune, d'être pécheur devant Dieu. Expérience qui passe par la reconnaissance du mal commis, reconnaissance de la faute, et qui passe aussi par reconnaissance que nous pouvons être oublieux des promesses de Dieu. Le contraire du péché, ce n'est pas la vertu, le contraire du péché, c'est la foi. Ça, c'est classique de le dire, faut se le rappeler. Je pense que ces deux chapitres de Samuel en sont l'expression, l'illustration parfaite. Voilà, le contraire du péché, ce n'est pas la vertu. Le contraire du péché, c'est la foi. Et David, à travers cette histoire, il a découvert que Dieu aime la vérité au fond du cœur et que dans le secret de l'être, il nous apprend la sagesse. Il a appris à croire à la promesse de Dieu et à obéir dans la confiance au projet que Dieu forme pour les siens. Et que c'est assez significatif que ces deux chapitres dramatiques s'achèvent par la naissance d'un enfant. On dirait l'enfant du péché, Salomon, l'enfant du péché.